Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
À la une de l'actualité de ce jeudi 30 juin 2022, des promesses et un nouveau plan d'aide pour l'Ukraine face à la Russie. Les membres de l'OTAN réunis en sommet à Madrid ont planché sur la question de la guerre qui fait rage depuis plus de 4 mois maintenant. Une peine maximale pour un procès historique. Les juges ont rendu leur verdict dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. Salah Abdeslam est condamné à la perpétuité incompressible. Lui écope de 30 ans de prison. Le chanteur américain R. Kelly est reconnu coupable d'avoir diriger un système d'exploitation sexuelle, il nie toujours les faits. Et enfin, le tournoi de Wimbledon, Novak Djokovic, tenant du titre, a facilement maîtrisé l'Australien Thanasi Kokkinakis en 3-7 et seulement 2 heures. Tous les détails dans le journal des sports. On ouvre ce journal avec la déclaration du secrétaire général de l'OTAN réuni en sommet à Madrid. La Russie représente une menace directe pour la sécurité des pays de l'Alliance Atlantique, c'est la déclaration. Les pays membres ont promis de protéger l'Ukraine autant que nécessaire, renforcement des défenses ukrainiennes contre les cyberattaques russes, livraison d'équipements militaires. Après avoir fourni des milliards de dollars à Kiev, les membres de l'Alliance annoncent s'être mis d'accord sur un nouveau plan d'aide. Valérie Gasse.
Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on se réjouit de voir l'OTAN adopter une feuille de route qui prend en compte le bouleversement engendré par la guerre en Ukraine. Il fallait tirer les conséquences de la situation actuelle. L'espace euro-atlantique n'est plus en paix, explique-t-on. Le secrétaire général de l'OTAN l'a d'ailleurs reconnu, la Russie représente désormais la menace la plus importante pour les alliés. Ce changement de posture était attendu par Emmanuel Macron. Il va se concrétiser par un renforcement des forces de l'Alliance sur le flanc est de l'Europe et bien sûr un renforcement de l'aide à l'Ukraine, qui répond à la demande réitérée par le président Zelensky, qui s'est exprimé en visioconférence devant les membres du sommet. La France a affirmé sa disponibilité pour participer à cette mobilisation. À l'Élysée, on affiche aussi une grande satisfaction de voir que désormais la complémentarité entre l'Union européenne et l'OTAN ne fait plus débat. L'adhésion de la Finlande et de la Suède qui a été actée à Madrid va dans ce sens, car ces deux pays peuvent être des contributeurs importants à la sécurité européenne. Du point de vue français, ce sommet de l'OTAN a permis d'avancer à la fois dans le domaine du soutien à l'Ukraine et de la défense collective.
On l'a entendu dans ce reportage de Valérie Gasse pour Radio France Internationale. L'autre annonce faite lors de ce sommet qualifié d'historique, c'est l'élargissement de l'OTAN à la Suède et à la Finlande. Le président russe dénonce les ambitions impériales de l'OTAN qui cherche selon lui à affirmer son hégémonie via le conflit ukrainien. On écoute Vladimir Poutine.
Раньше не было никаких угроз для них.
If NATO troops and infrastructure are deployed, we'll be compelled to respond in kind and create the same threats for the territories from which threats towards us are created. It's obvious. Don't they understand that? Everything was going fine between us, but now there will be tensions. There certainly will. This is obvious and inevitable.
Autre menace identifiée par l'OTAN, la Chine. Son président Xi Jinping est attendu à Hong Kong aujourd'hui pour marquer le 25e anniversaire de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique. Il s'agit là de son premier voyage hors de Chine continentale depuis janvier 2020. Sur place, la police est sur le qui-vive et plusieurs quartiers sont déjà bouclés. À Hong Kong, la correspondance de Florence Deschangy.
Alors que la radio publique diffuse plusieurs fois par jour des messages positifs pour tenter d'égayer l'ambiance générale, des milliers de policiers sont déjà déployés aux abords de la nouvelle gare de Kowloon par laquelle le président chinois devrait arriver en train rapide jeudi. Des perquisitions et des arrestations préventives ont eu lieu, des zones d'interdiction aérienne ont été déclarées. À Wanshai, cœur des cérémonies du vendredi, des énormes barricades en plastique de 2 mètres de haut remplies d'eau forment des murailles infranchissables pour d'éventuels manifestants. Des snipers seront postés en haut des immeubles. Quant au risque de contaminer les Chinois continentaux avec le variant Omicron, encore assez présent à Hong Kong, les quelques 3000 invités à la cérémonie ont dû se placer en quarantaine dans les deux hôtels qui jouxtent le grand centre de convention de Wanshai, où la cérémonie a toujours lieu. Des collégiens de 12 ans qui chanteront à l'arrivée et au départ du président ont également été mis une semaine en quarantaine à l'hôtel. Des milliers de lanternes en plastique, des drapeaux et des banderoles avec des slogans patriotiques en caractère chinois seulement ont été accrochés un peu partout.
Actualité en France et l'épilogue de ce qu'on a surnommé le procès du siècle, le procès des attentats du 13 novembre 2015 pour juger le massacre du Bataclan, des terrasses et du Stade de France qui a fait 130 morts, 10 mois d'audience et au final des peines exemplaires. Tous les accusés ont été reconnus coupables, chacun avec des peines individualisées allant de 2 ans de prison à la perpétuité incompressible. Cette peine maximale a été prononcée bien sûr à l'encontre de Salah Abdeslam, le seul membre des commandos encore en vie. Depuis la cour d'assises spéciale de Paris, la correspondance de Nathanaël Vitran pour RFI.
Une dernière fois, la sonnerie a retenti dans la salle d'audience. Une dernière fois, le président a annoncé que la séance était ouverte. Il est allé vite. Tous les accusés, vous l'avez dit, sont reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. Une seule exception, Farid Karkash, c'est le grand gagnant, ce soir reconnu, certes coupable d'avoir livré des faux papiers à la cellule. Mais la cour a estimé que les débats n'avaient pas permis d'établir qu'il avait connaissance du contexte terroriste. Il est donc condamné à 2 ans de prison seulement. Dans quelques jours au maximum, il sortira donc libre. Pour les autres, la cour a suivi le parquet dans ses réquisitions. Elle considère Salah Abdeslam comme co-auteur de tous les crimes commis le 13 novembre. Elle n'a pas cru à sa version de recruter de dernière minute. Il devient le 5e condamné à la perpétuité incompressible en France. De la même manière, Mohamed Abrini est condamné à la perpétuité, assorti cette fois d'une période de sûreté de 22 ans. Pour les 11 autres accusés présents, la Cour pose un dilemme. Aucun n'est lavé de la tâche de terrorisme dans les qualifications, mais les peines prononcées, eh bien, elles sont inférieures à celles demandées par l'accusation. Les 3 accusés qui paraissaient libres vont le rester. Leurs peines sont couvertes par la détention provisoire où un aménagement de peine au moins s'applique. Pour les autres, y compris ceux qui clamaient leur innocence, plusieurs pourraient bientôt sortir s'ils ne font pas appel. Mais l'étiquette d'une condamnation en lien avec le terrorisme leur collerait alors à la peau. Ils ont 10 jours pour se décider.
Suite à ce verdict, on écoute le soulagement des victimes et notamment la réaction d'Arthur Denouveau. Il est le président de l'association Life for Paris.
Ce qui est juste, c'est ce que les juges ont décidé. Et je dis ça très sincèrement. On s'est donné tellement de temps, ces débats-là sont tellement complexes qu'il faut accepter ce qu'ils ont dit. Ils ont visiblement pris le temps de bien rédiger leur motivation. Tout le monde pourra les lire, Salah Abdeslam a le droit de faire appel. Mais on ne peut pas revenir sur ce qu'ont dit les juges. Comment je me sens? Je savais que vous me poseriez cette question et j'en ai aucune idée en fait. Je me sens prêt à faire autre chose en fait. Et je me suis surpris à me dire que j'étais content que les 3 accusés qui comparaissaient libres sortent libres. Donc c'est qu'il y a quand même quelque chose qui a dû fonctionner dans ce procès, mais ouais, il faudra sûrement des mois pour tout analyser, mais il y a quelque chose qui a réussi ici et ça c'est beau. C'est beaucoup d'émotions. Moi ça me fait pas plaisir d'envoyer des gens en prison. J'aurais préféré que ces attentats aient jamais lieu et que ces gens-là aient jamais à être envoyés en prison non plus. Et donc c'est quand même le sentiment aussi d'un immense gâchis. Mais la justice elle est venue réparer ce qui aurait jamais dû se passer, quoi.
L'actualité en France, elle est aussi politique avec ce suspense entretenu par Elisabeth Borne sur la question de la confiance, celle que sont prêts à lui accorder ou non les députés nouvellement élus. La première ministre sera devant eux mardi prochain pour prononcer son discours de politique générale. Reste maintenant à savoir si elle sollicitera un vote de confiance, comme c'est la tradition. Un désaveu pour Elisabeth Borne entraînerait sa démission et celle de son gouvernement. L'exercice est donc risqué puisque, rappelons-le, le camp présidentiel n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, sauf s'il arrive d'ici là à négocier avec certaines oppositions. Lucille Gimbert, RFI.
L'Union de la gauche réclame que la première ministre vienne se confronter à l'Assemblée où son camp a perdu sa majorité absolue. Le député insoumis Éric Coquerel.
Il serait quand même extrêmement surprenant qu'un gouvernement s'installe sans demander la confiance, alors qu'il est responsable devant l'Assemblée. C'est un aveu de peur et d'échec à l'avance, mais démocratiquement ça pose un problème. Donc c'est pour ça que s'ils font ça, on déposera une motion de censure. C'est au gouvernement de se débrouiller pour tenir compte des nouvelles caractéristiques de cette Assemblée.
L'extrême droite et la droite sont-elles plus ambiguës à l'image du député LR Pierre-Henri Dumont?
Aujourd'hui, il n'y a pas de vote de confiance qui est demandé, donc il n'y a pas de position de LR. Laissons-les déjà remanier le gouvernement, exclure ceux qui doivent être exclus du gouvernement pour diverses raisons, et ensuite voyons qui sont les ministres et voyons s'ils demandent la confiance.
Car tout se joue en fait en coulisses. Elisabeth Borne ne demandera la confiance que si elle est sûre de l'obtenir. Et pour cela, il faudrait que plusieurs dizaines de députés d'opposition, à minima, s'abstiennent. La première ministre négocie donc sur 2 tableaux, via le casting de son nouveau gouvernement qui pourrait s'ouvrir à d'autres tendances politiques, et via les postes clés attribués à l'Assemblée, où la gauche dénonce un accord de la majorité présidentielle avec LR et le RN de Marine Le Pen.
En attendant ce rendez-vous dans l'hémicycle la semaine prochaine, eh bien, il y a la question des postes clés qui se posent déjà. Il y a celui notamment stratégique de président de la commission des finances. Il est normalement réservé au plus gros groupe d'opposition. Ce poste sera désigné aujourd'hui. Et il y a ceux de vice-président de l'Assemblée nationale. C'est historique, c'est une première. Le Rassemblement national a remporté 2 de ces 6 postes après un vote des députés. Inacceptable, dénonce l'Union de la gauche. On écoute Julien Bayou, il est le coprésident du groupe écologiste.
LREM a fait voter pour le Front National. Et vraiment, toutes les leçons sur la démocratie sont maintenant désormais parfaitement irrecevables. La discipline républicaine, elle est du côté des écologistes, elle est du côté de la gauche. C'est nous qui avons fait barrage au deuxième tour de la présidentielle. C'est nous qui avons appelé à battre l'extrême droite aux législatives. Et là, on a démasqué le fait que LREM s'accommode parfaitement et même soutient l'accession à la vice-présidence de députés Front National. En fait, aujourd'hui, LREM se dévoile et se fait marche-pied, non seulement de la banalisation de l'extrême droite, non seulement de sa dédiabolisation, mais désormais de son institutionnalisation. Je ne sais pas si on mesure la gravité de ce qui se passe.
Et pour clore cette page dédiée à la politique française, on apprend qu'une enquête pour tentative de viol a été ouverte contre le ministre des Solidarités Damien Abad après la plainte d'une femme déposée lundi. Elle accuse Damien Abad d'avoir tenté de la violer lors d'une fête organisée chez lui à Paris début 2010. Le ministre nie ces accusations et annonce déposer une plainte en dénonciation calomnieuse. Il s'agit de la 3e femme à l'accuser de violence sexuelle. Dans le reste de l'actualité internationale, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, se dit très préoccupée par l'épidémie de monkeypox, la variole du singe. En 2 semaines, plus de 1300 nouveaux cas ont été recensés avec 8 nouveaux pays touchés. Au total, ce sont plus de 3400 cas qui ont été enregistrés depuis l'apparition de la maladie. Par la voix du docteur Abdi Mahamoud, l'OMS craint la transmission du virus parmi les personnes les plus vulnérables, telles que les femmes enceintes, les immunodéprimées et les enfants. Écoutez.
We are aware about 2 cases in UK and we are following up with Spain and France. And when we say children are less than age of 18, some of them may be male of 17, 18, we'll share. So as of now, we don't have any severe cases, but it's an age group that we are really concerned about.
Aux États-Unis, les suites de la macabre découverte au Texas d'un camion transportant plus de 50 migrants décédés. L'enquête a permis de déterminer que le véhicule avait été arrêté plus tôt à un poste de frontière, mais n'avait pas été inspecté. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, assure que des points de contrôle supplémentaires vont être établis sur les autoroutes, mais déplore un manque de moyens et un manque de ressources aux frontières. On l'écoute.
As you all surely know, the truck passed through a border point. Checkpoint. It was not inspected. It was not inspected because the Border Patrol does not have the resources to be able to inspect all of the trucks. And as a result, the Border Patrol did not have the capability of saving those lives.
On ouvre une nouvelle page justice et on le disait en titre, le chanteur américain R. Kelly vient d'être condamné à 30 ans de prison pour crimes sexuels. La star déchue du R&B en prison depuis 2019 a été reconnue coupable d'avoir dirigé un système d'exploitation sexuelle de jeunes femmes, dont des adolescentes. Parmi elles, Jovante, elle avait 14 ans lorsqu'elle a rencontré R. Kelly.
There wasn't a day in my life up until this moment that I actually believed that the judicial system would come through for black and brown girls. I stand here very proud of my judicial system, very proud of my fellow survivors, and very pleased with the outcome. 30 years did he do this, and 30 years is what he got.
R. Kelly, 55 ans, nie lui toujours les faits. Autre procès aux États-Unis et autre lourde peine, Ghislaine Maxwell a, elle, été condamnée à 20 ans de prison pour crime sexuel également. La mondaine britannique a été reconnue coupable de trafic sexuel de mineurs pour le compte du financier américain depuis décédé Jeffrey Epstein. Ses avocats vont faire appel. Sans transition, la météo de ce jeudi après-midi à Perth, il fait du soleil 19 degrés, 15 à Adélaïde, 13 à Melbourne, 11 à Hobart, nuageux, il fait 13 degrés à Canberra. Conditions similaires à Sydney, nuageux donc 19 degrés, des averses à Brisbane 21 degrés, des averses également à Cairns 25 degrés et à Darwin comptez 25 degrés également. Le rappel des titres, les membres de l'OTAN se sont mis d'accord pour un nouveau plan d'aide pour l'Ukraine face à la Russie. Autre annonce, la Suède et la Finlande vont pouvoir intégrer l'Alliance Atlantique. Les juges ont rendu leur verdict dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. Salah Abdeslam est condamné à la perpétuité incompressible. Et enfin, le chanteur américain R. Kelly écope d'une peine de 30 ans de prison pour crimes sexuels.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench